La mission du Forum des îles du Pacifique va pouvoir constater la réalité de la situation en Nouvelle-Calédonie. C'est ce qu'annonçait l'ambassadrice de France dans le Pacifique ce matin sur notre antenne. Les membres de la mission sont attendus à la fin de la semaine prochaine. L'ADEC répond par voie de communiqué aux courriers qui lui ont été adressés. Pour rappel, les internats de l'enseignement catholique sont toujours fermés à l'heure actuelle. Le soin de transport fait des propositions pour une nouvelle stratégie de mobilité. Pour pallier le manque de transport public actuel, le syndicat évoque notamment une prise en charge des frais de transport des employés par leurs employeurs. Et des changements de consommation pour le tabac sur le territoire, du côté des bureaux de tabac ou des consommateurs, les habitudes ne sont plus les mêmes depuis le 13 mai dernier. Des initiations de golf pour les enfants pendant les vacances scolaires, c'est ce que propose le golf de Tina. Et ces stages rencontrent un grand succès. Reportage à découvrir en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans Info Soir pour tout savoir de l'actualité en Nouvelle-Calédonie et dans la région Pacifique. Un mot de situation pour ouvrir dans les communes. Un accident de la route impliquant plusieurs voitures s'est déroulé vers 16h20 après le pont de Koekara au niveau de l'embranchement entre Nouméa et le Mont d'Or. Les secours seraient encore sur place et des ralentissements sont observés dans la zone. Et des obstacles sont aussi signalés au nord de la commune de Païta au niveau du pont Pen. Et ce matin, c'est à la Conception au Mont d'Or que les axes routiers étaient bloqués, notamment entre le drive-in du Pont des Français et le rond-point de la Conception. La CCAT avait annoncé des actions en ce 13 août pour marquer le troisième mois du début des émeutes, mais seuls des rassemblements et quelques dizaines de militants ont été relevés, essentiellement sur la côte Est. Dans le Sud, un cortège d'une soixantaine de véhicules a emprunté la RP1, mais il s'est heurté aux verrous mis en place à Saint-Louis par la gendarmerie. Les seuls affrontements recensés ont eu lieu à Poya, où des émeutiers se sont livrés à des caillassages et ont essayé de mettre en place des barrages de branchage, mais les forces de l'ordre sont intervenues pour les déloger. On nous a signalé également un caillassage sur la RT1 à la hauteur de Tomo. Et puis cet avis de disparition inquiétante, une jeune fille de 19 ans a disparu sur Nouméa depuis le 10 août. Virginia Vaisala, wallisienne et mesurant 1m70, de corpulence moyenne, les cheveux noirs avec des pointes teintées en orange, était vêtue au moment de sa disparition d'un pantalon de jean noir et d'un tricot noir, d'une veste marron et de baskets Nike. Elle aurait quitté son domicile au village des Gaillacs pour accompagner ses sœurs sur leur lieu de travail à Magenta Discount, avant de repartir à 10h pour rentrer chez elle. Mais elle n'est jamais réintégrée le domicile jusqu'à ce jour. Toute personne pouvant apporter son témoignage est invitée à contacter le groupe de protection de la famille au 24 33 00, 24 33 00 ou en appelant le 17. Les services de l'État préparent la prochaine mission du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Le président de la République a en effet donné son feu vert la semaine dernière à cette demande des responsables du Forum de mettre en place une mission d'observation sur laquelle Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique, a apporté ce matin des précisions sur RRB. Jean-François Baudin.
Oui, une mission tout à fait justifiée, nous a dit Véronique Roger-Lacan. La France promeut en effet le système multilatéral d'échange entre les États et cette mission demandée par les responsable du forum s'inscrit dans un souci de respect du droit international auquel la France, nous a-t-elle dit, est très attachée.
La France fait partie de la communauté internationale, la France fait partie de la région et c'est presque une revendication de la France. Vous vous souvenez, quand le président Macron est venu en juillet 2023, il a réitéré l'insertion des territoires français du Pacifique dans leur environnement régional. C'est aussi un petit peu pour ça que j'ai été placée, alors que mes prédécesseurs étaient placés à Paris, j'ai été placée dans la région. L'important, c'est vraiment la coopération entre les États de la région qui ont beaucoup à bénéficier de l'implantation de la France à travers ses territoires dans le Pacifique, mais vice-versa, les territoires français dans le Pacifique, eux, tiennent beaucoup à la relation avec leurs groupes polynésiens, mélanésiens, micronésiens, et ce n'est que chose normale hein, de continuer à entretenir ce dialogue.
Et il était important que cette mission du FIP vienne sur le territoire avant le prochain sommet du forum prévu à Tonga du 26 au 30 août, c'est-à-dire à la fin du mois, car chaque sommet se conclut par un communiqué qui fait le point sur chaque État membre et il faut donc que le paragraphe concernant la Calédonie soit conforme à la réalité de la situation et reflète tous les points de vue.
Il faut savoir que c'est donc le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie qui gère les relations internationales. Il représente la collégialité du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Donc il faut que ce qui est reflété dans ces communiqués représente le point de vue de la collégialité. Il faut que toute projection du gouvernement de Nouvelle-Calédonie dans le cadre de ses compétences de la loi organique de 1999 dans le domaine des relations extérieures respecte pleinement la loi organique et donc respecte la collégialité. Et donc là, l'idée, c'est que la collégialité, l'ensemble des parties prenantes au terme de l'accord de Nouméa, l'ensemble des communautés qui doivent vivre ensemble, qui doivent créer un destin commun, seront entendues et nous définirons ensemble un langage dans ce paragraphe concernant la Nouvelle-Calédonie de ce prochain communiqué des leaders du Pacifique qui correspondent à la réalité des choses.
Et c'est donc la réalité des choses que vont pouvoir constater les membres de la mission d'observation du Forum des îles du Pacifique, souligne Véronique Roger-Lacan.
Les destructions économiques, les destructions d'entreprises, les destructions d'édifices d'éducation, les destructions d'édifices religieux, les équipements de santé, la difficulté, mais voire l'impossibilité d'accès par une grande partie de la population à des soins médicaux, à l'alimentaire, à l'éducation, bref, aux droits élémentaires reconnus par le droit international public à chaque individu. Et l'idée, donc, c'est que le communiqué du Forum des îles du Pacifique, le paragraphe concernant la Nouvelle-Calédonie, et c'est ce sur quoi nous nous sommes entendus avec Mark Brown, le Premier ministre des îles Cook, qui préside le Forum des îles du Pacifique, et avec Siaussi Sovaleni, qui est le prochain président. C'est un, la condamnation de toute violence. Deux, contre des processus démocratiques libres, justes et transparents. Trois, soutien au dialogue, tout le temps. On n'a jamais cessé de dialoguer, il faut continuer à dialoguer. Et c'est l'antienne du Forum des îles du Pacifique, le Talanoa. Quatre, sur la base de la résolution 1541 de l'Assemblée générale des Nations unies. Donc le droit, toujours le droit, rien que le droit.
La mission d'observation du Forum des îles du Pacifique doit donc venir avant le sommet qui s'ouvre le 26 août. Elle devrait donc être présente sur le territoire à la fin de la semaine prochaine au plus tard.
Et trois mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles, quelle est la situation sur le terrain? Nous en parlerons demain avec Théophile Delassus, le directeur de cabinet du Haut-Commissaire. La situation du Mont d'Or Sud et des quartiers de Nouméa, les renforts des forces de l'ordre, le maintien du couvre-feu, ce sont quelques-uns des thèmes que nous aborderons avec lui. Théophile Delassus, invité du matin, c'est à suivre demain à partir de 7h30 sur RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 63% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS n'approuvent pas la décision du président de la République de donner son feu vert à l'envoi en août d'une mission du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Ils sont 37% à l'approuver. Et enfin, notre question du jour, le succès des Jeux Olympiques de Paris aura-t-il, selon vous, des répercussions sur l'image de la France sur la scène internationale? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Et si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146.
Vous écoutez InfoSoir, il est 17h54.
L'ADEC répond par voie de communiqué aux deux courriers distincts que lui ont adressé la présidente de la province sud et la membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Dans ce courrier, elle s'étonnait de la mise en chômage partiel des personnels et des internats de l'ADEC, internats qui sont fermés depuis le 13 mai et pourraient le rester jusqu'à la fin de l'année, alors que le gouvernement et la province ont versé les sommes permettant à l'enseignement catholique d'assurer leur fonctionnement, Jean-François.
Oui, la direction de l'enseignement catholique s'étonne d'abord que ces courriers aient été rendus publics, alors même qu'elle n'en avait pas eu connaissance. Elle se livre ensuite à un long historique sur sa situation financière, rappelant que la marche qu'elle a organisée en mai 2022 pour alerter les collectivités sur ses difficultés, à l'époque, la baisse des aides apportées par les collectivités était de 1,3 milliard. En novembre dernier, et après un plan d'économie interne à l'ADEC, les élus du Congrès avaient adopté une délibération pour rétablir l'équilibre financier des enseignements privés. Dans leur courrier respectif hier, la présidente de la province sud rappelait que la collectivité avait donc versé les 620 millions prévus conformément à cette délibération et la membre du gouvernement en charge de l'éducation que les deux tiers des 550 millions à sa charge avaient aussi été versés et qu'elle s'apprêtait à verser le relief. syndicat. Insuffisant pour garantir les frais des internats et des cantines jusqu'à la fin de l'année, souligne l'ADEC, qui a demandé une aide exceptionnelle de 250 millions supplémentaires en début d'année pour boucler l'exercice 2024, qui est selon elle resté lettre morte. Sont arrivées ensuite les émeutes de la CCAT. L'enseignement catholique a prélevé 40 millions dans sa trésorerie pour réparer les dégradations dont certains de ses établissements ont été victimes, et elle doit faire face aux difficultés des familles qui ne peuvent plus assumer leur participation financière dans les mêmes proportions qu'avant la crise en raison des conséquences sociales de ces émeutes. C'est pour cette raison qu'elle a donc eu recours au chômage partiel, explique l'ADEC, pour ses 495 salariés. Décision lourde, dit-elle, qui a pour but de préserver les emplois et de maintenir l'activité scolaire, même si cela va impacter certaines de ses activités. En attendant, les internats des établissements scolaires de l'ADEC sont toujours fermés.
Et alors que les transports publics sont à l'arrêt depuis le début de la crise insurrectionnelle, le Soinc Transport souhaite mettre cette période à profit pour que soit mise en place une nouvelle stratégie de la mobilité, Gilles Ménage.
Organisation, financement, sécurité, le syndicat dresse un constat sévère de l'organisation des transports publics routiers, organisation qualifiée d'usine à gaz de par la complexité de son organisation et la multiplication des interlocuteurs. Tanéo, Carouya, Carsud, Rail, SMTU ou SMTI, un maillage qui, selon le Soinc Transport, se révèle très coûteux pour le contribuable. Et le Soinc fait donc des propositions dans plusieurs domaines, explique Francisco Sioné, le secrétaire général du Soinc Transport.
C'est l'occasion, en fait, la crise permet de réformer, de faire des réformes structurelles sur la future délégation de services publics. Ce qu'on propose, c'est vraiment simplifier le fonctionnement. D'une part, trouver peut-être, pourquoi pas, une SEM qui pourrait être l'intermédiaire entre la puissance publique et le privé. Mais après, notre proposition se repose sur trois axes principalement. C'est le financement, la sûreté et la formation. C'est un support, c'est un projet. Je pense qu'il ne faut pas rester dans l'inertie pour répondre à la crise, c'est dans la prise d'initiative. Et nous, le Centre de Transport, on est force de proposition en disant voilà un projet et de pouvoir travailler là-dessus.
Sur la question du financement, le syndicat propose de s'inspirer du système métropolitain qui prévoit que les employeurs prennent en charge 50% des frais de transport de leurs employés, moyennant des déductions fiscales. Mais c'est aussi la question de la sécurité, bien sûr, dans les transports qui doit être revue, selon le syndicat. Elle ne date pas, évidemment, de la crise du 13 mai, mais là encore, on pourrait s'inspirer du système en vigueur en métropole.
C'est une réalité qu'on a souvent exprimée. Là, actuellement, début mai, entre avril et début mai, ils ont mis en place une nouvelle brigade de police des transports, qui se résume quand même à une brigade de la police nationale de 10 agents. Cependant, je pense qu'il faut renforcer ces mesures-là, renforcées par d'autres brigades d'agents de sécurité, mais qui peuvent intervenir. Il faut s'inspirer de ce qui est en France, c'est la loi Savary, qui donne beaucoup plus de compétences pour ces agents de sûreté pour les transports publics, pour qu'ils puissent interpeller, en fait.
Francisco Sioné, secrétaire général du Soinc Transport, qui a envoyé cet ensemble de propositions au SMTU en attendant l'organisation d'états généraux de la mobilité que le syndicat appelle de ses voeux.
Et de son côté, la FEDE fait des propositions au gouvernement dans le dossier délicat de la caisse locale de retraite. Dans un courrier adressé à Louis Mapou, le syndicat déplore le vote par le Congrès de mesures jugées injustes qui font payer aux actifs et aux retraités les défaillances des employeurs. La FEDE demande au gouvernement de prendre des initiatives pour que de telles extrémités ne se reproduisent pas et propose notamment de sanctionner par une suspension de prestations les établissements défaillants, alors qu'aujourd'hui la sanction est collective, et d'imposer par une loi aux employeurs l'obligation de payer en même temps les rémunérations et les cotisations sociales, ce qui aurait pour effet, selon la FEDE, de sacraliser le financement de la protection sociale. 17h59, avant de marquer une première pause dans ce journal, une information, rendez-vous sur notre antenne. Depuis le 13 mai, il y a 3 mois maintenant, les équipes de RRB sont restées pleinement mobilisées. Comme chacun d'entre vous et comme toutes les entreprises, Radio Rythme Bleu a subi les conséquences de cette situation particulière dans son personnel, avec des problèmes liés notamment aux difficultés de déplacement ou à la tension ambiante. Nos équipes sont cependant restées mobilisées pour vous informer et vous accompagner, et nous avons maintenant tenu l'essentiel de nos émissions, mais nous avons dû aussi adapter et modifier notre grille pour faire face à la situation. Nous allons progressivement revenir à la normale et nous voulions vous signaler le retour depuis hier de 2 rendez-vous d'antenne qui avaient été suspendus. Vous retrouverez désormais tous les matins à 5h50 la rubrique « Bonjour la Calédonie » qui vous fait partager l'actualité des communes calédoniennes. Et de la même manière, avec le retour timide des activités culturelles, nous vous proposons de nouveau la rubrique « Par ici les sorties » qui est diffusée tous les jours à 10h30 et à 16h30, deux rubriques réalisées par Kélinda Boiscou. 18h pile, l'heure de passer à la première page de publicité dans ce journal.
En cas d'urgence, chaque seconde compte. Choisissez la confiance. Choisissez les ambulances Saint-Jacques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Rapide, fiable, il n'y a pas de jour sans les ambulances Saint-Jacques. Votre sécurité est notre priorité. Téléphone 25 27 27.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léana Colombo.
Oui, et les aides de la province sud à l'agriculture et à l'aquaculture. Lors de la réunion de son bureau, elle a décidé d'allouer 5 millions au fonds de bonification des taux d'intérêt des prêts de trésorerie en faveur des entreprises et filières en difficulté. Cette décision permettra de poursuivre la prise en charge par la province sud des taux d'intérêt des prêts de trésorerie consentis aux exploitations en difficulté dans le but de soutenir le secteur agricole et notamment la filière crevette. Et puis la Direction générale des finances publiques communique sur l'aide apportée aux entreprises du territoire. Près de 20 millions d'euros, soit 2,4 milliards de francs, ont déjà été versés à plus de 4 200 TPE et PME au titre de la solidarité nationale. Plus de 15 000 demandes ont été déposées par les entreprises auprès de la direction, qui en a instruit plus de 2/3 et validé la moitié. Parallèlement, un dispositif d'accompagnement spécifique pour les entreprises les plus en difficulté a été créé début juillet. Une cinquantaine de demandes ont été formulées et sont en cours d'examen. Les premiers versements aux entreprises pourraient intervenir début septembre 2024. Et c'est dans ce contexte que certains buralistes de Nouméa enregistrent une hausse des ventes de tabac. Mais cette augmentation n'est pas liée à la consommation qui reste stable, selon la régie des tabacs, Jean-François.
Oui, cette augmentation constatée par certains buralistes est en fait la conséquence de la diminution du nombre de bureaux de tabac dans le Grand Nouméa. Nombreux sont ceux qui ont brûlé et ceux qui restent debout enregistrent donc une fréquentation plus importante et à cela s'ajoutent des difficultés d'approvisionnement pour certains points de vente qui sont liés au barrage, explique Pierre Emery, le chef de service de la régie des tabacs.
Depuis le début des événements, il y a beaucoup de magasins qui ont brûlé, qui ont été saccagés. Il y en a aussi certains qui ont fermé parce qu'ils ont eu peur, puisque les gens n'arrivaient plus à y aller, eux-mêmes n'arrivaient plus à aller dans leur commerce. Et du coup, il y a certains commerçants qui ont réussi, eux, malgré tout, à travailler et s'approvisionner en tabac. Et donc, effectivement, ces commerçants vendaient beaucoup plus de tabac, mais essentiellement parce que les autres étaient fermés. Puis maintenant, à peu près un mois, la situation est redevenue à peu près correcte, sauf essentiellement pour le Mandor et un petit peu moins pour la Brousse, puisqu'il y a quand même beaucoup moins de barrages en Brousse en ce moment.
Après les récentes augmentations du prix du tabac, la régie misait sur une baisse de 10% des ventes. Mais cette baisse pourrait être bien plus importante en raison des départs et des pertes d'emplois passés et à venir de nombreux salariés. Un sujet sur lequel la régie garde un œil attentif.
Pour l'instant, on est dans nos prévisions. C'est un petit peu surprenant, mais bon, le tabac, c'est une drogue, donc c'est très addictif. Par contre, on imagine facilement, vu la situation économique des gens qui ont perdu leur travail et qui sont très nombreux, des entreprises qui vont fermer encore, on s'attend quand même à une baisse de la consommation. De quel ordre, c'est difficile à dire. Mais en tout état de cause, on suit ça de près pour pas être trop surpris en fin d'année s'il y avait une baisse drastique des recettes qui sont liées au tabac et qui financent essentiellement les hôpitaux. Voilà.
Et puis les fumeurs ont aussi changé leurs habitudes depuis le 13 mai. Pour certains, plus de cigarettes en raison du stress. Pour d'autres, baisse de la consommation en raison des difficultés financières.
Maintenant, on fume moins. Vu que c'est cher le tabac et puis on ne peut pas se permettre de payer tout le temps des clopes comme ça. Ben là maintenant on a diminué un peu par rapport au début, mais on va dire 10 clopes contre 40 à la journée.
Au début, il n'y avait plus de tabac partout, il y avait plus. Ouais, c'était la galère quoi. J'avais diminué et puis après avec le stress et tout, c'est remonté. Et puis du coup, ben là, c'est plus pire qu'avant le 13. Parce que j'étais dans l'optique avant d'arrêter de fumer. Du coup, j'étais bien 6-7, mais maintenant, ouais, le double, 15. C'est un roulet tous les deux jours. Du coup, 5 000 francs. Si ça augmenterait, forcément. C'est quelque chose qui me ferait arrêter.
Et comme de nombreux particuliers et entreprises, la Régie des tabacs fait aussi face à un autre problème, la perte de confiance des fournisseurs dans la Nouvelle-Calédonie, qui demandent des garanties que la Régie ne peut pas tenir, selon Pierre Emery.
Les fournisseurs, pour le tabac, tout du moins, j'imagine, pour tous les autres produits, c'est pareil, puisque maintenant, ils ont peur de ne pas être payés. Du coup, ils demandent des garanties, et ce qui pose problème pour nous au niveau tabac, puisqu'on est une administration, donc on n'a en fait pas de garantie à donner, difficilement, tout du moins. Donc, on s'inquiète beaucoup, parce que les fournisseurs commencent à nous dire, nous, on vous enverra votre tabac que quand on sera payé, ce qui n'est pas possible pour nous. Donc, on espère quand même que la situation ici va se stabiliser et les fournisseurs qui sont attentifs à ça vont reprendre un peu confiance en nous et à l'historique qu'on a avec eux, quoi.
Pierre Emery, le chef du service de la Régie des tabacs, qui s'inquiète donc d'une perte de chiffre d'affaires, synonyme, on le comprend, d'une baisse de rentrée fiscale pour la Nouvelle-Calédonie. Enfin, si certains buralistes de Nouméa constatent une hausse des ventes, ils constatent aussi dans le même temps une perte de clientèle et une augmentation significative des vols depuis le début des émeutes.
Depuis le début de la crise, les associations caritatives sont très sollicitées. Bien que certaines d'entre elles aient aussi subi des exactions, elles entendent poursuivre leurs actions auprès des populations les plus fragiles. Dans quelles conditions et avec quels moyens? C'était le thème de notre magazine citoyen ce midi, Gilles Ménage.
Des associations qui, depuis le début de la crise, ont dû travailler dans des conditions particulièrement difficiles, avec pour certaines, comme la Société Saint-Vincent de Paul, des infrastructures pillées, voire détruite par les émeutiers. Pour autant, aucune d'entre elles n'a baissé les bras et dans certains quartiers particulièrement touchés par les destructions, des initiatives de solidarité ont vu le jour. C'est le cas à Rivière-Salée où s'est montée en quelques jours seulement une association Solidarité RS dont Carlène Terria est l'une des fondatrices.
Nous sommes tous habitants de Rivière-Salée. On était enclavés dans notre propre quartier pendant 3 semaines. Et donc, du coup, c'est parti de publications sur les réseaux sociaux. Et donc, on s'est réunis comme ça. Plusieurs habitants, on était 4. Voilà, c'est vraiment les membres fondateurs de l'association parce que nous sommes actuellement une association très jeune. Mais voilà, on ne lâche pas et on a subi en même temps que les habitants de Rivière-Salée la même situation. Très compliqué, on jauchait à travers les barrages, mais voilà, on ne s'est pas arrêté, on était motivés, on est encore motivés pour continuer nos missions actuelles.
Et au-delà de la question alimentaire qui fait l'objet de toutes les attentions, c'est aussi l'impact psychologique et les dégâts infligés au lien social qui inquiètent les associations, comme l'a constaté sur le terrain Patrick Chotard, le président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge.
L'impact psychologique, c'est à mon sens ce qui est le problème le plus crucial qu'ont pu rencontrer les gens qui étaient comme Rivière-Salée bloqués dans leur quartier. Après, c'est aussi le maintien du lien. Le lendemain du 13 mai, un lien s'est non pas rompu, mais maintenant il est ténu. Et ce lien, il est impératif que l'on contribue à le maintenir, à se développer. Et ça, c'est le rôle de chacun d'entre nous, le maintien du lien.
Reconstruire le lien social, un enjeu d'autant plus important qu'avec les destructions d'entreprises et le chômage, la crise a laissé apparaître une nouvelle catégorie de personnes démunies, remarque Betty Levanquet, la présidente de la Banque alimentaire.
En fait, ce qui se passe, c'est que les démunis, on s'en occupait depuis 6 ans, mais ces démunis-là, ils sont encore plus démunis. Et puis, il faut aussi se rendre compte qu'il y a une nouvelle population de précaires et qui est, elle, aussi bien dans le besoin que ceux que nous servions depuis 6 ans. Et cette population-là, elle doit absolument être recensée afin d'être aidée. Et cette nouvelle population de précaires, elle n'a pas l'habitude de demander de l'aide. Donc, c'est aussi une difficulté pour ces gens-là. Mais en tout cas, nous sommes là pour tout le monde.
Et nous étions également en compagnie d'Elisabeth Gau, présidente de la Société Saint-Vincent de Paul, et de Jean-Yves Lemenant, président du Secours catholique. Une émission à retrouver en intégralité en audio sur notre site internet.
Merci beaucoup. Gilles Ménage, 18h09, l'heure de marquer une seconde et dernière pause dans ce journal. Et nous verrons ensuite comment les enfants sont initiés au golf durant ces vacances scolaires.
Des piqûres regroupées ou alignées sur votre peau qui vous démangent. Ce sont des punaises de lit. Pensez Formula 4D. Les punaises maîtrisées par une équipe appliquée. Info sur formula4d.com.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. RRB,
Première radio d'information.
La suite d'InfoSoir, Léana Colombo.
Et je vous le disais, du golf pour les vacances scolaires. Le parcours de Tina propose un stage d'initiation au golf ouvert aux enfants de 5 à 15 ans, Sarah Mégery.
Une manière pour les enfants de profiter de leurs vacances tout en découvrant une discipline sportive qui se pratique en pleine nature. Et certains sont déjà accros.
On fait ce stage pour s'amuser pendant les vacances et pour faire du golf.
C'est quand tu tapes la balle, moi ça me libère, donc j'aime bien. J'arrive à faire des swings assez longs au départ et sur le putting, mes coups sont souvent près du trou.
En fait, je fais du golf tous les mercredis et j'adore le golf, c'est mon père qui m'a appris à jouer. J'ai toujours aimé ça, je sais pas pourquoi. La première fois que j'ai vu, j'ai directement accroché.
Parmi ses enfants, Aaron, 10 ans, a été diagnostiqué TDAH, c'est-à-dire un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Pour lui, le golf a changé sa vie car il lui a permis de maîtriser sa concentration.
Ça m'aide énormément à me concentrer. Avant, j'arrivais même pas à écrire une lettre sans partir, alors que maintenant, j'arrive à écrire des paragraphes et des pages entières. Aussi, ça m'aide à me concentrer à l'école et que j'ai des meilleures notes. Tout ce que je veux faire où il faut se concentrer, bah, j'y arrive en ce moment. Et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie au quotidien. Quand j'étais petite, je tirais les cheveux des copains. Je pensais que ça les faisait rire et ça les faisait pleurer. Et puis, j'ai appris à arrêter de faire ça. Et le golf, ça m'a beaucoup aidé pour arrêter mes bêtises, faire mal et tout ça. Ça m'a aidé à me concentrer et aussi à me mettre à la place des autres.
Émilie Picot est enseignante de golf et dirige ce stage de vacances. Selon elle, il permet notamment de découvrir, pourquoi pas, des champions en herbe.
On en a quelques-uns qui ont commencé avec les stages et qui maintenant font partie de l'école de golf de Tina et qui cette semaine participent au challenge des cagous, notamment Naël Kanzari. Donc on a des petites pépites, des petits cagous qui commencent à arriver. Et ça fait toutes les compétitions. Naël a gagné dans sa catégorie l'Omnium de Tina qui a eu lieu la semaine dernière. Donc ça commence par des petites victoires pour faire de futurs champions.
Notez que le challenge des petits cagous a débuté aujourd'hui au golf de Tina. Au total, 4 jours de compétition qui réunissent tous les jeunes golfeurs du territoire.
Merci beaucoup, Sarah Mégery. Et puis une information pratique. Le Betty Show ajoute une rotation supplémentaire vers les îles Loyauté. Une manière pour la compagnie de répondre à la forte demande actuelle. Elle est prévue dimanche 18 août dans le sens Nouméa-Maré-Lifou-Nouméa. La vente des billets est ouverte sur le site bettycho.nc ou par téléphone au 260 100 260 100. Notez que les conditions météo actuelles ont perturbé les rotations du Betty Show aujourd'hui. La rotation vers l'île des Pins a été annulée et reportée à demain mercredi. Tous les billets ont été automatiquement transférés sur cette nouvelle date, précise la Sud-Île. L'actualité dans la région Pacifique avec ce drame à Cairns, dans le nord de l'Australie. Un hélicoptère s'est écrasé sur le toit d'un hôtel avant de prendre feu. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes. Elles doivent notamment déterminer l'identité du pilote car le mystère demeure. Et c'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
L'hélicoptère, un Robinson 44, s'est écrasé sur le toit de l'hôtel Hilton de Cairns où il a immédiatement pris feu. Quelques minutes avant 3 heures, heure de Nouméa, dans la nuit de dimanche à lundi. Son seul passager a été tué sur le coup en impact. L'appareil, qui n'a volé que 4 minutes, avait été volé un peu plus tôt du hangar de Nautilus Aviation, une compagnie spécialisée dans les vols à caractère touristique. Son directeur, Aaron Finn, a indiqué que le vol de l'hélicoptère était non planifié et non autorisé. Tous les pilotes de la compagnie ont depuis été contactés, mais, a déclaré Aaron Finn, il est possible qu'un autre employé de la société a pu être impliqué, ce que la police de Cairns et le Bureau national de sécurité des transports cherchent maintenant à établir. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Vous le savez, les Jeux Olympiques 2024 Paris sont terminés et si la France est arrivée cinquième au classement général, un pays voisin de la Nouvelle-Calédonie s'est surpassé cette année, il s'agit de l'Australie. Avec ses 53 médailles dont 18 en or, le pays océanien se hisse à la quatrième place du classement général, un record de performance pour la nation voisine à la Calédonie. La compétition a été suivie avec beaucoup d'attention par les ressortissants australiens présents sur le territoire et la consul générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie, Annelise Young, se dit particulièrement fière des prestations des athlètes australiens, une nation très sportive selon elle.
On est
vraiment très fière. Moi, je suis toujours très fière d'être australienne et surtout après les JO où l'Australie a eu notre meilleur résultat dans tous les JO avec 18 médailles d'or. Comme vous savez, on est un pays, et je dois avouer, un peu obsédé par le sport. On a été très performante en natation avec 7 médailles d'or. La plupart des habitants en Australie habitent à bord de la mer. Donc chaque enfant apprend la natation depuis la jeunesse, tout comme mais ici en Calédonie. On aurait bien aimé célébrer d'une façon plus large, mais on va le fêter entre notre équipe au sein du consulat à la place.
Et l'Australie organisera à son tour les Jeux Olympiques. Ce sera dans 8 ans, soit en 2032 à Brisbane. 18h16 et on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Alors dites-nous tout, Nicolas, de la pluie, du soleil, on veut tout savoir.
Ça va pas être terrible. Cette nuit sur l'ouest, la lune sera voilée par des nuages élevés. Ailleurs, les nuages bas qui circuleront resteront nombreux avec parfois une averse sur la côte est. Le vent d'est à est-sud-est maintiendra entre 20 et 25 nœuds avec des rafales à 35 nœuds. Il restera moins fort sur l'ouest avec des accélérations possibles en sortie de vallée. Sur l'ouest, les températures minimales remonteront autour des 15 degrés. Ailleurs, elles seront stables, comprises entre 18 et 22 degrés. Demain matin, le ciel sera très nuageux à couvert en général avec quelques averses sur l'est et la pointe sud. Le vent de secteur est restera soutenu, souvent compris entre 20 et 25 nœuds avec des rafales de 30 à 35 nœuds. Il dépassera très localement les 25 nœuds avec des rafales de 35 à 40 nœuds sur la pointe nord et le nord-est.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et la technique. C'est la fin de cette édition.